Nous avons donc vu lors des deux derniers dimanches que nous connaissions des tensions dans de nombreux domaines. Tensions provenant du fait que le royaume de Dieu est déjà là par certains aspects, mais pas encore là par d'autres. Alors après la sphère spirituelle, intellectuelle et morale, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur deux autres sphères ou domaines dans lesquels cette tension entre le déjà là et le pas encore du royaume de Dieu peut être présent. Cette série de messages aura, je pense, constitué un bon préliminaire à la célébration de Noël, jour où, par sa venue en ce monde, notre Seigneur y a importé le royaume. Puisque là où est le roi, là aussi est le royaume. Le premier domaine dans lequel j'aimerais que nous pénétrions ce matin, c'est ce que j'appellerais la sphère physique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? En parlant de sphère physique, je veux plus particulièrement faire allusion à la guérison et au rapport au corps, et donc à notre fragilité humaine. Vous avez remarqué que nous sommes loin d'être insubmersibles quant aux maladies et autres joyeusetés de ce monde. « Tout homme n'est qu'un souffle, une ombre », disait le roi David dans un psaume bien connu. Il semble malgré tout que tout le monde ne soit pas toujours de cet avis quant à la qualité de vie du souffle ou de l'ombre en question. Autrement dit, je crois que l'image est très forte quand David dit que, pour le dire plus proche de l'hébreu, quand la vie de l'homme n'est qu'une buée. Alors faites l'expérience, surtout en hiver, faites sur une vitre, restez un petit peu près et regardez le temps que ça va prendre pour que la buée disparaisse. La Bible dit que c'est à ça que correspond une vie humaine, c'est-à-dire rien du tout, en comparaison à la vie de l'univers, le temps de l'univers, l'éternité et surtout l'éternité de la présence de Dieu. Mais commençons par le commencement. Les chrétiens affirment que le royaume de Dieu, longtemps annoncé par les textes prophétiques de l'Ancien Testament, a été inauguré car il a fait irruption dans l'histoire des hommes par la naissance du Christ. Jusque-là, ça va. Et que Jésus ne s'est pas contenté, si je puis dire, de proclamer le royaume, de l'enseigner, de le dire. Il a aussi démontré, manifesté sa venue au travers de prodiges incroyables dans le domaine matériel et physique. Ce qu'on appelle communément les miracles. Vous lisez l'Évangile, c'est comme assez difficile de passer à côté des miracles, même si certains y arrivent très bien d'ailleurs, en disant que ce ne sont forcément pas des miracles. Alors quelques exemples pour vous rafraîchir la mémoire, essayez de faire ça chez vous en rentrant, vous allez voir que c'est quand même un peu spécifique à Jésus. Jésus a marché sur les eaux, si vous ne savez pas nager, évitez d'essayer quand même, ça je vous conseille. Il a changé l'eau en vin, et pas l'inverse. Des places, il fallait que je le dise. Il a réduit le vent au silence, il a calmé la tempête, il a multiplié les pains et les poissons. Avec Jésus, pas besoin de faire son marché, vous donnez un truc et il multiplie à l'infini. Pour le dire clairement, la nature lui était soumise. Ça, c'est ce que j'appelle le domaine matériel. Mais il aussi, et on le sait, exerçait un pouvoir tout particulier sur le corps humain en guérissant les malades, en chassant les démons, si, malheureusement ça existe, et en ressuscitant des morts. Le Christ a également, durant son passage sur cette terre, donné autorité à ses 12 plus proches collaborateurs, ce qu'on appelle les disciples, et même à 70 autres collaborateurs de son cercle plus éloigné. Il a donné mandat d'aller proclamer l'Évangile, la venue du Messie d'Israël en ce monde, et ils ont bénéficier de cette capacité qu'avait Jésus de faire des miracles à ses disciples, ont donc aussi, par la puissance du Christ, perpétré des miracles et des prodiges. Ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades, etc. etc. Donc ces textes existent, on ne va pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Maintenant, encore faut-il essayer d'en dégager le sens profond. Le miracle dans le Nouveau Testament est d'abord à mettre en rapport direct avec la nécessité qu'avait le Messie attendu d'Israël, annoncé par les prophètes, de faire ces miracles. Il ne pouvait pas se prétendre être le Messie d'Israël qui était attendu depuis des siècles sans faire des prodiges qui qualifiaient sa nature de Messie. Pas de miracle, pas de Messie. Ça, c'est le contexte juif. La deuxième signification de ces miracles, c'est que dans le même alignement que le Messie, les disciples du Messie devaient eux aussi être capables de manifester la puissance de vie du Messie en eux à travers la réalisation de miracles. On peut donc déjà dire, sans risque de se tromper, que d'une manière générale, indépendamment de Jésus qui était le Messie, les miracles perpétrés par les apôtres manifestaient qu'ils étaient bien un apôtre authentique. On va prendre un texte où c'est Paul, qui était un peu apôtre sur les bords, vous le saviez, qui le dit en 2 Corinthiens 12, 12. Facile à, ça c'est une référence facile à retenir, hein, 12, 12. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Il a Corinthe pour le contexte. Les Corinthiens avaient un peu de problème avec l'autorité apostolique de Paul. Ils avaient un peu mal parce que Paul leur imposait des choses. Ils lui disaient « Vous devez faire ceci et pas cela ». Et Paul a fini par dire « Écoutez, j'ai éprouvé par des signes, des prodiges et des miracles que Dieu était avec moi. Donc vous ferez quand même bien un peu d'écouter ce que je dis ». Quelle chance, il n'y a plus vraiment de ce genre de miracle aujourd'hui. Vous imaginez hein? Quelle terreur. Donc ça qualifiait, il n'y a pas que lui, il y a Pierre qui a fait des miracles. Ça qualifiait le ministère apostolique d'apôtre. Mais dans un même temps, si on dit que c'est limité aux apôtres, c'est vrai, j'expliquerai pourquoi. Il serait grotesque quand même de vouloir limiter Dieu. Je pense qu'instinctivement, quand quelqu'un, par exemple, tombe malade, quelqu'un que l'on aime, tombe malade, le réflexe de tout chrétien normalement constitué, c'est de prier pour que Dieu guérisse cette personne. Parce que j'entends souvent dire « Oui, mais enfin, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? » On s'en fout, quoi. Si tu aimes quelqu'un et tu es en train de crever, tu vas prier pour lui quand même. Hein. Ça, c'est de la bonne théologie pastorale pratique. Hein. Pas comment c'est « Oui, mais est-ce qu'il faut vraiment prier pour cette personne ?» Bon, si la personne a un aft, pharmacien, c'est un bon plan quand même. Hein. Vous avez un petit rhume, hein. Médecin, Dieu aussi, comment je profite, Dieu a inventé la science aussi, la médecine. C'est sympa. Pour les trucs vraiment curables, il a inventé les médecins. Pour les trucs vraiment merdiques, on ne s'en sort pas tout seul, là, à la limite, il faut peut-être commencer à prier. Donc, c'est clair qu'il ne faut surtout pas limiter Dieu dans sa volonté, sa capacité de guérir. Parce que c'est complètement idiot, stupide, comme on peut même l'énoncer, que de dire on peut limiter l'action salvatrice de Dieu. C'est une ineptie invraisemblable, ça. Par définition, s'il est Dieu, on ne peut pas le limiter dans son action. Sauf peut-être par notre incrédulité. Il n'aime pas trop ça. On ne peut donc pas lier les mains du Dieu qui a créé l'univers et a introduit dans son royaume certains d'entre nous par la foi en son Fils. On ne peut pas limiter ce Dieu-là. Il faut donc reconnaître qu'il est totalement libre et absolument souverain. Il fait ce qu'il veut. Ou il n'est plus Dieu. D'accord ? Il faut donc, soyons pratiques, que nous soyons tous ouverts à la possibilité qu'a Dieu de faire encore aujourd'hui des miracles physiques et matériels. Ok ? Bon, c'est un exemple qui me vient tout en parlant. J'ai peut-être déjà cité cet exemple. Le fameux anglais là, qui a créé les pensionnats. George Müller, voilà. George Müller, c'était un prédicateur très apprécié. Alors, c'est le 19e siècle. Hein. Il était souvent invité aux États-Unis, donc il devait prendre le bateau. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Hein. Hop, bateau. Ça mettait des plombes. Alors, il était attendu dans différentes villes américaines pour prêcher l'Évangile. Et il est arrivé une fois, il raconte qu'il est en pleine mer, en plein océan Atlantique, et puis à un moment, paf, les moteurs s'arrêtent. Bateau à l'arrêt. Il monte de sa cabine, il va voir le capitaine. Le commandant, il dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Bah regardez, il y a un brouillard, on ne va pas à 2 mètres, il faut arrêter les machines. » Et Müller dit « Oh, attendez... Mais ça ne va pas être possible, hein, parce que moi, je suis attendu dans 2 jours à Boston. Moi, il faut que pour prêcher, c'est impossible. Il faut que ce bateau reparte. » Il dit, si vous avez une bonne idée, je suis tout oui, parce que moi, je ne démarre pas les bateaux. J'ai réglé votre problème. Et il se met à genoux dans la cabine du capitaine, il commence à prier. Et l'histoire raconte que quand le capitaine est remonté sur sa passerelle, le brouillard était parti. Alors là encore, on dit, oui, bien un coup de vent, ça, c'est une question de foi. Plus de brouillard. Si Müller a prié, c'est qu'il était convaincu que si c'était cohérent pour lui de dire « Dieu m'attend aux États-Unis pour prêcher sa parole », ce brouillard, c'est une petite cacahuète sur le chemin, mais il faut qu'il me la dégage. Quoi. D'accord ? On y croit ou pas hein ? C'est pas bien de ne pas y croire. Hein. C'est pas bien. Donc, il est libre et souverain. Il faut donc qu'on reste ouvert à la possibilité de miracles. Alors, plus vraiment pour valider un quelconque ministère apostolique, puisque de nos jours, je vais être catégorique, hein, les apôtres dans la conception et le contexte du Nouveau Testament ont disparu. Je sais bien qu'il y en a encore plein qui se promènent dans les rues aujourd'hui avec la tête en l'air, on dit « Oh, je suis un apôtre », il faut arrêter, quoi. D'ailleurs, quand vous voyez la vie de ces apôtres, ça fait peur souvent, hein, soit. Mais ces miracles continuent quand même aujourd'hui à être une manifestation de la liberté de Dieu et surtout de sa grâce et de son amour, grâce personnelle. Hein. Parce que vous avez remarqué, il peut guérir la personne de droite et pas celle de gauche. Ça aussi, il faut l'accepter. Hein. Il ne me guérit pas moi, par exemple, mais il va guérir celui qui est mon voisin de droite. Ah, il a autre chose pour ma vie. Donc tout ça, ça rentre quand même dans une dynamique personnelle aussi. Hein. Voilà ce que dit des miracles le théologien allemand Jürgen Moltmann. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Les guérisons opérées par Jésus ne sont pas des prodiges surnaturels dans un monde naturel, mais le seul naturel dans un monde naturel démonisé et blessé. Qu'est-ce qu'il dit Moltmann ? Le véritable ordre naturel des choses consiste bien en une création, un être humain libéré des chaînes de la maladie et du mal. Ce qu'il dit en fait, c'est que le fait qu'on soit malade aujourd'hui, le fait qu'on ait besoin de guérison, le fait que parfois on demande des miracles, c'est pas anormal, c'est normal, parce que la normalité, c'était le monde d'avant la chute, comme Dieu l'a pensé au départ. Sans mal, sans maladie, sans blessure, voilà. D'accord ? C'est ce qu'il dit. Donc chaque fois qu'on dit un miracle, oh mon Dieu, un miracle, c'est le surnaturel qui rentre dans la sphère naturelle. Il dit non. Hein. C'est un rétablissement temporaire de quelque chose qui n'aurait jamais cessé d'être et que Dieu va, ça c'est important pour nous, et que Dieu va réinstaller. Le but, c'est quand même qu'à un moment, on arrête d'être malade ici. Hein. Dans la nouvelle création, le nouveau royaume, le royaume de Dieu. Quand il sera vraiment installé, ça sera terminé les maladies. Qu'est-ce que moi je vais faire de mes journées, quoi ? Le jour où tout le monde ira bien, je ne servirai vraiment plus rien, moi. Donc, les miracles se produisant parfois de nos jours, et ils existent, hein, peuvent être compris comme une sorte de clin d'œil de Dieu, annonçant le retour à une véritable normalité créationnelle, une création sans souffrance, sans péché, sans ânerie, sans mauvais choix, sans blessure. Car je rappelle quand même que la maladie, le mal et la mort ne font pas partie du plan originel de Dieu. Ça n'était absolument pas prévu au programme, d'accord ? Ok ? Mais, même si c'est ce qui s'annonce, c'est ce qui arrive, cette création, ce royaume n'est pas encore là dans sa plénitude. Donc, il y a des conséquences vis-à-vis de notre petit corps personnel à ça. Car ce monde dans lequel nous vivons n'a pas encore été remis à notre Seigneur et à son Christ. Apocalypse 11. Mais il le sera lorsque notre Seigneur règnera au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours, et il attend ce jour. Ce qui signifie notamment que nos corps ne sont pas encore achetés et que la nature n'a pas encore été totalement soumise au pouvoir du Christ. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que ce jour vienne, voilà ce que dit Paul, jusqu'à ce moment-là, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Nous faisons partie de cette création, nous sommes le sommet de cette création, hein, le top. Mais nous sommes partie prenante de cette création et nous souffrons et attendons comme elle et avec elle le royaume de Dieu. Normalement, les chrétiens attendent ça. Si vous n'en avez rien à battre, il faut peut-être vous poser des petites questions de recentrage. Hein. Donc les animaux souffrent, demandez au tigre, hein, allez prendre dans un zoo, demandez au gorille, au tigre, ce qu'il peut. Ça va, toi, t'es content d'être dans ta cage de 2 mètres sur 2, même si tu fais déjà quand même 3 mètres quand tu t'étires. Hein. Ou dans les cirques, les animaux, qu'est-ce qui s'amusent, hein, les éléphants sur les pattes arrière, ben, bien sûr, c'est une nature extraordinaire, hein, non ? Et les océans qui bouffent du plastique. Tout va bien. 2000 ans avant que tout ça arrive, Paul dit, la nature souffre. Elle agonise. Elle souffre les douleurs de l'accouchement. Alors pourquoi l'accouchement ? Il ne dit pas elle souffre les douleurs de la destruction. Il dit elle souffre les douleurs de l'accouchement. Pourquoi ? Parce qu'elle va accoucher. Il y aura l'accouchement d'une nouvelle création. C'est une douleur, entre guillemets, hein, si on voit ce qui se passe, c'est horrible. Hein. C'est une douleur bénéfique parce qu'elle annonce quelque chose de parfait derrière. Donc il faut quand même se réjouir. D'accord ? Mais ne jetez plus de plastique par terre, s'il vous plaît. Donc, les océans souffrent, les animaux souffrent, la nature souffre, et nous souffrons. Notre corps souffre, et nous souffrons en notre corps parce qu'il est destiné à la destruction. Il ne passera pas le stade de la mort, hein, notre corps. même si nous serons tous ressuscités, mais avec un corps nouveau et glorifié. Celui-là, il sera redarn, hein, fini. Pourquoi ? Parce que ce corps ne peut pas hériter de la nouvelle création. Il ne peut pas en faire partie. Pourquoi ? Parce qu'il est justement pécheur et corruptible, comme dit Paul. Voué donc à la destruction. Et ce qui est voué à la destruction ne peut pas hériter d'une dimension éternelle qui n'aura pas de fin. Destruction, il y a forcément une fin. Incorruptibilité, il n'y a pas de fin. Pour lire autrement, ce qui est né de la terre, ce corps-ci, ne peut pas hériter du ciel en l'état. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une intervention de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu, à la résurrection des corps, nous donnera un nouveau corps glorifié, comme ce corps que possédait Jésus après sa résurrection, hein, où il mangeait avec ses disciples, il buvait, voilà, il faisait un barbecue sur la plage, hein, enfin sur le bord du lac de Galilée en tout cas, où les disciples disent « c'est lui », mais voilà, il le reconnaissait, mais en même temps, il était quand même un peu changé. Mais ce corps-là, il est important pour nous, qu'on nous le donne plus tard, parce que c'est le seul corps qui entrera dans la présence de Dieu, hein, tel qu'il est. Sans ce corps-là, c'est impossible. Hein. Pourquoi ? Ce corps-ci, il a commis le péché, je ne vais pas vous rentrer en détail, il est loin d'être... Il ne peut pas hériter de la vie éternelle, ce corps-là. Donc c'est bien... quand on prend toutes les pièces du puzzle ensemble, on se rend bien compte, me semble-t-il, qu'il faut forcément que quelque chose de nouveau arrive, hein, ou on est mal, mes amis. Hein. Ou alors c'est, ben, comme certains pensent, hein, il y a la mort et puis, point, quoi, on est mort, et puis c'est tout. Hein. Et après, il y a le néant. Prendre un autre texte de Paul, dans Corinthiens 15. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé, il fait référence au fait que Jésus a dû mourir, passer par la mort physique, pour ressusciter, et ressusciter comment ? Avec un corps glorifié et retourné dans la présence de son Père. Il donne cette articulation-là, et puis juste après, il rajoute, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, mon corps ici va mourir, mais il va ressusciter incorruptible. À la résurrection des corps, on aura un nouveau corps qui ne périra plus, qui ne sera plus marqué par la mort et qui ne mourra plus. Il est semé méprisable, bouh, vilain corps qui fait des bêtises. Si, si. Il ressuscite glorieux dans la gloire, comme celui du Christ. Il est semé infirme. L'infirmité fait partie potentiellement de la vie. Hein. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, donc voilà, destiné à la mort. Il ressuscite corps spirituel, de nature spirituelle, donc éternel. Donc Paul termine en disant, s'il y a un corps animal, ben ça on ne peut pas le nier quand même, n'êtes pas pur esprit les corps. Il y a aussi un corps spirituel. Nous devons donc admettre, c'est ça qui est important, la tension existant entre le déjà-là et le pas encore aussi dans ce domaine. Bien entendu, nous goûtons, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ça, nous goûtons d'ores et déjà, maintenant, hein, maintenant, à ce que le Nouveau Testament appelle parfois les puissances du siècle à venir, qui sont très différentes de celles d'aujourd'hui, bien entendu. Mais Paul dit, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, mais ce ne sera qu'un avant-goût de ce qui arrive. Mais ça veut dire qu'on peut déjà goûter quelque chose maintenant. Et les chrétiens qui ne goûtent rien à la vie spirituelle qui arrive du royaume maintenant, il a aussi un souci. Hein. Il faut se poser les bonnes questions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là quand l'Épître aux Hébreux parle d'avant-goût des choses à venir? Eh bien, en tant que chrétien, nous faisons constamment l'expérience, on n'est pas toujours conscient et il faut apprendre à identifier cette réalité, mais nous faisons constamment l'expérience que la vie de résurrection de Jésus se manifeste en nous par son Saint-Esprit, dans notre corps mortel déjà ici. Je vous rappelle quand même, vous êtes habité par le Saint-Esprit, dans votre corps mortel. La vie éternelle est en vous par la présence de la puissance de la vie du Christ en vous par son esprit dans votre corps mortel. Votre corps mourra, mais vous êtes garanti de la vie éternelle parce que son esprit éternel est en vous, maintenant, d'ores et déjà. Donc, quoi que vous viviez dans ce corps, tout est transcendé, magnifié, glorifié par la présence du Christ en vous. Quand vous croyez qu'il y en a certains qui sont capables de mourir martyrs, on leur fait un peu bobo à leur corps. Hein? Pourquoi ils sont capables d'aller jusque-là? Parce que leur réalité intérieure, c'est le Christ. Rappelez-vous, ça met en perspective la notion de maladie et de dégénérescence du corps. Rappelez-vous, et c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Hein? Rappelez-vous ce que Dieu a répondu à Paul. Paul, il était atteint d'une maladie grave, on ne sait pas laquelle. Il y a eu des expectatives, mais on ne sait pas. Mais la conséquence de cette maladie grave, dont souffrait probablement le plus grand apôtre missionnaire de tous les temps, le bloquait. Il était deux mois sur son dos. Il tenait la chambre, il ne pouvait plus bouger un mètre. On le sait parce qu'il en parle dans une de ses épîtres, entre autres. Et parce que ça le freine, donc, même pas pour son bien-être à lui, hein, parce qu'il doit souffrir physiquement de ça. Il dit à Dieu, mais je ne sais plus rien faire pour toi quand je suis dans cet état-là. Moi, je suis sur mon dos, quoi. Donc, Paul lui demande quoi à Dieu? Mais guéris-moi de ça, quoi, que je puisse continuer à te servir, que je ne sois jamais arrêté dans mon service. Qu'est-ce que Dieu, vous rappelez ce que Dieu a répondu? C'était dans la première aux Corinthiens. Et c'est Paul qui en parle. Hein. Il a répondu à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je n'ai pas besoin de ta force ni de ta bonne santé à toi. Hein. Et Paul continue, « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors vous allez me dire, « Oui, mais c'est pas... » Alors je vais parler de moi, parce que je n'ai pas spécialement envie de parler de moi, mais pour vous mettre un exemple pratique, ok? Et pas pour clore mon pauvre petit loulou, ce n'est pas le but non plus. Hein. Sans rentrer dans les détails, je souffre de bronchite chronique obstructive et d'atelectasie au poumon droit, c'est-à-dire que je vais depuis l'âge de 45 ans sur un demi-poumon. Pourtant, quand je marche dans la rue, plein ne savent pas me suivre, ils sont essoufflés avant moi. Ceux qui ont deux poumons. Ok? Donc j'ai les poumons d'un homme de 105 ans, et pourtant beaucoup n'arrivent pas à me suivre. Il y a plusieurs années, depuis l'âge, je crois que je devais avoir 20-21 ans, on m'a annoncé que, avec un peu de chance, j'arriverais peut-être dans la quarantaine sans être dans un fauteuil roulant, à cause de mon dos. C'est vrai que j'ai mis mon dos dans des situations où il n'aurait pas dû être, et nous sommes d'accord, j'étais un peu vif. Voilà, on va dire ça comme ça. Je devrais être un fauteuil roulant depuis la quarantaine au mieux. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Je dis, c'est toujours pas là. OK? Et je ne parle pas, vous le savez, de ce cancer dont je suis atteint et que des gens de mon âge n'ont pas à cet âge-là. Et je vous passe les autres joyeusetés médicales dont je suis affublé et auxquelles aucun médecin de cette planète ne comprend rien. Mais qui me font quand même passer des moments très joyeux à certains moments où j'ai vraiment, là, je jouis de mon corps, vraiment. Hein. Encore une fois, je ne vous raconte pas tout ça pour vous dire « Oh, petit Calimero, oh, le loulou, hein, qu'est-ce qu'il souffre hein ?» Si je dis ça, rendez-vous compte ce que je suis capable de faire malgré tout ça. Et vous croyez que ça vient d'où tout ça? Honnêtement. De la présence du Christ en moi. Point. Sinon, je serais dans mon lit, quoi. Là, je vais y retourner juste après, je suis vraiment fatigué. Non, mais voilà. OK? Donc tout ça manifeste aussi, ah ben la présence, bien sûr qu'il est là et qu'il me porte, amen. Mais en attendant, ça prouve quoi ce que j'ai? Mais que mon corps est fragile et qu'il va mourir un jour. Hein. Si, c'est très dur à entendre, je vais mourir un jour. Certains disent, ah oh, si tu vois vacciner, ça serait super. Donc ça manifeste que notre corps, pas que le mien, ça je suis désolé de vous le dire, notre corps est fragile et mortel. Autrement dit, là, je vais me mouiller un petit peu. Réclamer une santé parfaite dès maintenant et attendre que Dieu nous guérisse de tout en permanence, c'est anticiper notre résurrection. Ce sera votre cas quand vous serez ressuscité. Il n'y aura plus besoin de prier pour tout ça, ce sera à vie, enfin à vie. Et quand je dis vie, c'est vie éternelle. Donc prétendre à la guérison de tout et de tout le monde en permanence, c'est anticiper notre résurrection, mais également rajouter parfois, pour ne pas dire souvent, beaucoup de misère à une misère déjà présente, si la guérison n'intervient pas. Et moi, j'en ai assez de voir ça. Des gugus qui imposent des mains. Vous savez à quel niveau est mon cancer? Qu'il y en a un qui me dit je vais t'imposer les mains, ben je pèse mon pantalon, quoi. Qu'il faut arrêter, quoi. Mais merci pour ceux qui prient pour la guérison de mon cancer, quand même. Vous avez intérêt. Mais je ne vous en voudrais pas, quand même, si le Seigneur ne me guérit pas. Il y a encore peut-être un stade terminal d'un cancéreux là, qui a besoin d'entendre l'Évangile. Il fallait encore une fois que ça tombe sur ma tête, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, dernière petite remarque un peu caricaturale, ironique, allons-y. À ce que je sache, Jésus, durant son passage terrestre, n'a pas, lui non plus, guéri tous les malades de Judée. Hein. Parce que, pourquoi? Parce qu'il était limité dans son corps. Vous comprenez? Il y a plein de gens en Judée, à l'époque où Jésus était là, ils faisaient des miracles, ils n'ont pas été guéris. Hein. Comment ça se fait s'il guérit tout le monde? L'important, c'est de guérir. Nous attendons, en tout cas moi, j'espère que c'est votre cas aussi, nous attendons le jour où il essuiera, et le « il » c'est Dieu, toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant, notre état actuel, n'existera plus. Alors qu'une fois, l'état suivant, ce n'est pas vous dans une robe blanche avec des petites ailes dans le dos, ce n'est pas ça du tout, hein. S'il va créer une nouvelle terre, c'est pour que quelqu'un l'habite. Hein. Okay. Mais ce sera vachement différent. Ok, ça va plus ou moins. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Alors je boude. Hein. Moi je suis terrible quand je boude. Hein. Ça peut durer des années. Non, ce n'est pas vrai. Alors dernière sphère, enfin mon sens, où on peut trouver cette tension entre le déjà-là et le pas encore du royaume de Dieu. Et ça va faire référence à notre introduction de Chesterton, de tout à l'heure. Dernière sphère, c'est la sphère ecclésiastique, autrement dit, la sphère de l'Église, où cette tension de déjà-là et de pas encore peut être vraiment présente. Et en particulier, alors qu'on n'en parle jamais, et je pense que c'est pas pour rien, et cette tension peut se jouer principalement, à mon sens, quand elle touche dans la vie de l'Église à la discipline de l'Église. Quand vous faites des âneries et que le pasteur doit vous gronder très fort ou vous virer un coup de pompe dans les lattes, suivant l'approche pastorale. Il y a des pasteurs qui virent les brebis qui ne sont pas laissées, hein, des brebis qui ne lui appartiennent pas à coup de latte. Ça, c'est une question de... Moi, quelque part, naturellement, j'aurais bien aimé que ça soit vraiment la politique du Christ pour son Église. Parce que naturellement, les coups de latte... Eh bien non, il est plutôt du genre bisous et gros câlins. Voilà. Ne rêvez quand même pas trop, hein, pour les bisous et les gros câlins. Nous l'avons vu, nous le savons aujourd'hui déjà, au moment où je parle, Jésus, le Messie, a rassemblé autour de lui un peuple qui lui appartient, qui est l'Église. Dans ce sens-là, l'Église est le peuple messianique. Pourquoi ? Parce que son roi est le Messie. Donc la communauté messianique, donc l'Église, est déjà, actuellement, caractérisée par la vérité, puisqu'elle détient l'Évangile, l'amour et la sainteté, auxquelles son Seigneur l'appelle. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça, ce n'est pas les pères de l'Église, ce n'est pas Pierre, Paul, Jean et tous les autres, c'est Jésus. C'est lui qui a édicté ce modèle pour son Église. Vérité, amour, sainteté. En effet, Paul nous dit que l'Église... en ce qui concerne la vérité, est la colonne, ça c'est fort, est la colonne, et l'appui de la vérité. En poussant un petit peu le trait, en forcissant le trait, pardon, colonne, ça veut dire s'il n'y a pas de colonne, il n'y a pas d'église, il n'y a plus de vérité, quand même. Donc elle est le fondement solide sur lequel repose cette vérité, et le pilier... Il est sans hauteur, hein, qui maintient cette vérité visible pour tous. Si l'Église ne prêche plus la vérité, personne n'entendra cette vérité. Il faut qu'elle se voie, il faut qu'elle s'entende. Pour ce qui est de l'amour, par sa croix, le Christ a détruit, et c'est toujours Paul qui le dit aux Éphésiens, le mur de séparation, érigé entre les gens de différentes races, nations, tribus et classes sociales, pour créer en sa personne un seul homme nouveau. Et je prends ce texte d'Éphésiens. En effet, il est notre paix, le Christ, hein, il est notre paix, lui qui des deux groupes, et il parle des juifs et des non-juifs. Bon, les juifs, c'est le premier peuple élu, et puis bon, il y a tous les autres, c'est tous les non-juifs. Donc c'est le monde entier, hein, pour faire simple. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, et ce mur c'était quoi? La haine. Donc aujourd'hui, un chrétien qui est antisémite, il faut lui couper sa tête, il n'a rien compris. C'est antagoniste. On ne peut pas être chrétien et antisémite, par exemple. On ne peut pas être chrétien et raciste non plus. Donc à ce niveau-là, j'ai peut-être, quand je vois le football et que je vois des blacks rater des goals tout faits devant, voilà, je peux critiquer parce qu'ils sont nuls, mais peut-être pas ramener ça spécialement au fait qu'ils sont africains. C'est une forme de racisme primaire dont je souffre et dont Dieu n'arrête pas de me rabattre les oreilles pour l'instant. Donc voilà. Donc pour vous dire, ça touche tout le monde, même les pasteurs. Je vais devoir donc vendre mon truc à pointe. Enfin, tant pis, il faut que je trouve preneur. Mais... Par sa mort, il a rendu sans effet la loi, avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux peuples, dont tous les non-chrétiens, tous les non-juifs et les juifs, établissant ainsi la paix, et cette paix étant le Christ lui-même. Donc, si je dois résumer, ça va être pas facile, la pensée de l'apôtre, je dirais, pour être pratique, le seul endroit au monde, sur cette planète, où vous pouvez retrouver des noirs, des blancs, des verts, des bleus, des jaunes, des ouvriers, des cadres, des employés, des chômeurs, des mutualisés à vie qui portent le nom de frères et sœurs et qui s'aiment malgré toutes ces différences, le seul endroit où ça se trouve, ça s'appelle l'Église. Si ce n'est pas le cas, on a un problème. Non, ça fait des années que ça dure, hein, que je le dis. Les églises africaines, les églises anglaises, les églises espagnoles, les églises italiennes, les églises juives, donc toutes ces églises qui se constituent autour d'un groupe social ou ethnique, c'est une désobéissance, sens pardon, flagrante de la pensée de Dieu pour son Église. Ce qui frappe les gens, c'est que dans une Église où tout ça est réuni, ils se disent « c'est pas possible que ça fonctionne quand même ». Parce que par définition, on va se foutre sur la tête, hein, si Dieu n'est pas là. Si ça fonctionne, c'est parce que c'est sa volonté, c'est son plan, et parce qu'il veut que ça soit comme ça. Donc on dit « ah oui, moi en fait, moi je suis italien et moi je vais dans une église italienne ». En fait, moi, je suis espagnol, et moi, je suis désolé, mais moi, les cantiques, ça doit être en espagnol, donc moi, je vais dans une église, etc., les églises africaines. Désobéissance. Parler de vérité. Désobéissance envers la vérité. Ou je sais pas. Oh mon Dieu, dans cette église, il y a tellement d'ouvriers, c'est vraiment déplorable. Hein. Moi, je vais dans une église de cadres supérieurs et d'intellectuels, d'universitaires. Ça, c'est une émanation de notre ancienne nature. Hein. Rappelez dont on en parlait les deux semaines précédentes. Alors pourquoi est-ce que Paul peut affirmer ça et que ça devrait être comme ça, et ça l'a sans doute aidé en tout cas au début, c'est que, et il le dit en parlant de la paix qui est incarnée par le Christ, ce qui prévaut sur toutes les autres dimensions sociales ou raciales, c'est la présence du Christ. Vous êtes en Christ, c'est votre seule nouvelle et seule identité. Ça prend le pas sur tout le reste. Ça c'est pour la théorie. C'est vrai, hein? Et ça devrait l'être dans la pratique aussi. Et cela ne peut, cette réalité nouvelle, ne peut forcément se manifester qu'à travers l'amour. D'ailleurs, dans le livre des Actes, la première église à Jérusalem, les Juifs qui vivaient à Jérusalem et qui voyaient les chrétiens fonctionner entre eux disaient ah, voyez comme ils s'aiment. Moi, ça me laisse toujours sur mon pet hein, quand je dis ce verset. Voyez comme ils s'aiment. C'est des câlins géants toute la journée. Enfin, ce qui concerne la sainteté, n'est-ce pas ? La société nouvelle annoncée par l'Église, elle est indifféremment appelée dans le Nouveau Testament nation sainte, on n'a pas inventé la sainteté, nation sainte, saint sacerdoce et peuple saint. Mis à part, hein, vous rappelez. Hein. Mis à part pour le service de Dieu et donc dans ce service de Dieu, apprendre par la puissance du Saint-Esprit à devenir toujours plus semblable à Jésus qui est notre modèle. Donc, vérité, amour et sainteté sont déjà les marques essentielles de la nouvelle société créée en Jésus-Christ. Seulement voilà, nous avons tous remarqué que Christ n'a pas encore fait paraître devant lui, et j'utilise ici encore une fois les mots de l'apôtre Paul, il n'a pas encore fait paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Un jour, il pourra présenter cette Église qui est son épouse hein, dans la symbolique du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il parle de sang ride, parce que l'épouse, voilà. Un jour, il la présentera. « Papa, je te présente mon épouse. » Et elle sera parfaite. Nous. J'ai un peu de mal à m'imaginer en blanc avec une meringue sur la tête, mais enfin, soit. Mais un jour, ça arrivera. Ça arrivera. Mais on n'y est pas encore. Vous avez remarqué, l'Église, elle n'est pas parfaite encore. Elle ne pourrait pas l'être pour l'instant, puisqu'elle est constituée de pécheurs, mais qui sont appelés aussi des saints, de par leur vocation. Ça, c'est le mystère de la grâce et de l'amour de Dieu. Nous sommes encore pécheurs, mais nous sommes déjà saints. L'Église est imparfaite, parce que j'en fais partie. Je sais bien que ça ne vous vient pas à l'idée en premier, mais elle est parfaite tant que je ne mets pas un pied. Mais quand je mets un pied assez souvent sur la semaine, elle est imparfaite. Et je pense que c'est valable pour tous les chrétiens présents dans la salle. D'ailleurs, la vie et le témoignage de l'Église sont entachés de nombreux défauts. Au cours de l'histoire, on l'a bien remarqué. Ceux de l'erreur, donc désobéissance à la vérité, de la discorde, désobéissance à l'amour, et du péché, désobéissance à la sainteté. Mais cette même histoire de l'Église dont nous faisons partie et sommes donc participants est aussi et surtout, pour moi, le récit de l'incroyable, incroyable amour et patience de Dieu à l'époque de son peuple qui beaucoup, en tout cas trop souvent, n'écoute strictement rien de ce qu'il dit. Par conséquent, lorsque nous pensons à l'Église, nous devrions rapprocher notre portrait idéal de son portrait réel et notre portrait idéal de nous-mêmes de notre portrait réel. C'est le nombre de chrétiens qui cherchent une Église et qui n'arrêtent pas de chercher parce qu'il y a toujours quelque chose qui les dérange. Alors qu'il ferait bien de se demander, mais toi, le jour où tu vas te fixer dans une Église, c'est là que ça va vraiment foutre le bordel. Hein. Tu vois, c'est toujours dit, oh là là, c'est la paille et la poutre. Hein. Ah, c'est pas possible, je peux pas rester là parce qu'il y a ça. À part le pasteur, sa cravate n'aime pas la couleur. Ah oui, mais les chaises, elles sont pas assez. Puis les louanges, là, c'est pas assez ceci. Ou alors c'est trop seul. Sans se dire, est-ce que moi, j'aurais pas un léger problème, quoi. D'indécision, déjà. L'Église est à la fois engagée dans la vérité et sujette à l'erreur. Elle est unie et divisée. Elle est pure. Et elle est impure. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, il s'agit, vous l'aurez compris, j'espère, il ne s'agit pas ici d'excuser ses manquements, nos manquements. Et le fait qu'il soit indéniable que le pas encore soit une réalité aujourd'hui ne doit pas nous servir d'alibi, bon marché, à nos défaites quotidiennes quant à ce que Dieu attend de nous. Rappelez-vous, par exemple, ce que nous avons dit dimanche passé. Nous devons poursuivre notre idéal de vérité, d'amour et de sainteté. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes encouragés à combattre le bon combat de la foi, dont parle Paul dans sa lettre à Timothée. Et c'est un peu son testament, puisqu'il dira, « Timothée, mon ami, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne de vérité m'est réservée. » Donc, je vais mourir, mais j'ai tenu, j'ai consacré ma vie au Christ. C'est une phrase que moi, j'espère vraiment pouvoir dire sur mon lieu de mort, hein, que tous les chrétiens devraient pouvoir adresser. Vraiment. Donc nous devons pratiquement nous battre pour que ces réalités adviennent dans notre vie et donc dans celle de l'Église. Il faut se battre pour ça. Ça ne vient pas tout seul, hein, tous les jours. Mais en même temps, la dure réalité de ce que nous sommes doit forcément pouvoir laisser place à la discipline dont je parlais. Quand une hérésie, une erreur grave ou un péché notoire font irruption dans la vie de l'Église. Parce que la vérité, l'amour et la sainteté sont à ce prix. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on peut laisser tout faire sans jamais rien dire. Quand c'est grave, mes amis, c'est grave. Hein. Que ce soit sur le plan moral, le plan théologique ou le plan éthique. Hein. C'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça l'est par rapport à Dieu. Mais en même temps, vous voyez la dualité, la tension. Hein. Ce que nous devons aussi comprendre et accepter, c'est que le mal et l'erreur, et je suis catégorique parce que la Bible l'est, ne seront jamais éradiqués de l'Église ici-bas. Ça n'arrivera jamais ici. Jamais. Donc quand vous entendez des chrétiens débiter des conneries, priez pour eux, mais moi compris, hein. Priez pour eux, voilà, mais on peut espérer que ceux-là en tout cas arrêteront un jour d'en débiter des âneries, mais en attendant, ne seront pas, oh mon Dieu, choqués, ne les virons pas à coups de pompe dans les lattes, justement, parce que ça fait partie de l'Église d'aujourd'hui et d'ici-bas. Cette réalité continuera à coexister avec la réalité, l'amour et la sainteté tant que le Christ ne sera pas revenu chercher son Église et qu'il n'aura pas établi son royaume sur la terre. Et je termine en disant encore ceci, parce que c'est au niveau théologie pastorale, ça me paraît important, beaucoup savent, hein, mais je préfère le rappeler. Pratiquement, je crois de tout mon cœur qu'à la lumière de l'enseignement de notre Seigneur Jésus, qui dit de laisser croître les bonnes herbes et les mauvaises ensemble, ça veut dire que moi, je ne suis pas là pour couper la tête des gens qui courent à côté de leur pompe, ce n'est pas mon travail. Comprenez, je n'ai pas à juger, moi je juge les situations, pas les gens. Parce que si on confond les deux, on va faire beaucoup de dégâts. Ce qui veut dire, à travers l'enseignement que Jésus donne sur le sujet, de ne pas commencer à se faire Dieu avant le temps, avant que le temps ne soit venu. Rien ne justifie l'emploi de mesures disciplinaires draconiennes, on coupe les têtes et on vire les gens, visant à obtenir une Église parfaitement pure dans ce monde. Parce que ça, c'est le risque que l'on joue, parce que cette tension existe. Si on ne doit pas être dans l'erreur, et s'il faut faire attention à la vie que l'on mène, si quelqu'un est dans l'erreur ou vit une vie qui n'est pas en correspondance à ce que Dieu dit, le risque que nous avons, c'est de rejeter ces personnes. Je ne suis pas en train de dire « c'est super ce que tu fais », pas du tout. Mais on ne peut, ça c'est pour moi c'est le critère amour, on ne peut pas évacuer le problème en évacuant la personne. D'accord ? Dites-vous toujours, et c'est Jésus qui l'enseigne, ceux qui auront manqué de miséricorde, on ne sera pas miséricordieux avant eux non plus. Et il parle de qui quand il dit « on ne sera pas ». Dieu ne sera pas miséricordieux avec vous, si vous manquez de miséricorde envers les autres. Donc c'est très facile d'accueillir quelqu'un qui a un cancer, qui est peu rien. Pour mon petit pauvre des loups, mais accueillir la même personne qui a fait l'andouille et qui est dans le caca parce qu'elle s'y est mise, et dire « viens dans mes bras », plutôt que de dire « oh, c'est de ta faute, hein, t'as qu'à pas faire le con ». Donc cette tension existe, elle est difficile parfois à vivre, hein, nous sommes d'accord. Parce que je pense, et je termine vraiment, et c'est important, je pense vraiment, mais vraiment, de tout mon cœur, je ne dis pas que j'ai facile à faire ça parfois, hein, parfois il y a un certain qui me pompait, hein, ça je vous le dis, hein, je suis un être humain, parfois ça me fatigue, hein, mais je sais que la ligne est claire. Tout ce qu'on obtient, et j'ai quand même, j'étais pasteur dans d'autres églises que celle-ci, hein, tout ce qu'on obtient en ayant la prétention de rendre l'Église ici-bas déjà parfaite, c'est une bande d'hypocrites qu'on pousse à être parfaits alors qu'ils ne le seront jamais ici-bas. On oblige les gens à rester avec leurs vrais problèmes et à faire semblant qu'ils n'en ont pas. C'est à ça que ça ressemble. Vous comprenez ? Donc c'est terriblement important d'être au clair là-dessus. Parce que ces gens, ils vont être convaincus que c'est le modèle, et ils vont donc tenter d'être parfaits par leur propre force et par orgueil, alors qu'ils devraient commencer à le devenir avec l'aide de Dieu et par amour. Et ça donne des légalistes. Vous savez, petite parenthèse, j'ai appris il y a 3 semaines, heureusement que souvent quand on me dit ce genre de choses, je suis assis. Parce que même moi, parfois, je suis paf. Hein. Je serais prêt à tomber à la renverse quand on me dit certains trucs. Cette personne que je crois, hein, vraiment, parce que je connais un peu l'Église, me dit, voilà, une telle... Tu te rappelles ? Oui, telle personne, je me rappelle bien. Voilà, ça s'est mal passé, on s'en coupe, divorcé, bah oui, on s'en est pas occupé non plus dans cette Église. Il faut dire, hein, il y avait un problème, mais on s'en est pas occupé. Hein. Si Dieu a mis des ministères pastoraux dans l'Église, c'est pas pour faire décoratif, hein, soit. Le temps passe, 3-4 ans plus tard, cette personne se remet en couple avec quelqu'un d'autre. Elle est chrétienne, même si elle a divorcé. Et l'autre, il n'est pas chrétien, mais Dieu, ça l'intéresse franchement. Et elle se dit, moi, j'étais quand même bien dans mon église il y a 5 ans, dont j'ai été viré à coups de pompe dans les lattes. Je vais y retourner. Vous savez ce que ils lui ont dit ? Et le pasteur, il a 28 ans, le pasteur. Hein, et c'est pour ça que vraiment, j'étais assis. Hein. Le gars, il s'aligne sur l'église, sans doute. Hein, lui a dit, ah, toi, tu peux rester, mais pas lui, parce qu'il n'est pas chrétien. Alors ça, on ne l'avait jamais fait, celle-là. Alors, à mon avis, derrière, c'est elle est chrétienne, elle doit rester veuve, symboliquement, elle doit rester seule, elle ne peut pas se remarier ou elle va concrétiser un péché. Donc, on va l'aider en disant, lui, il ne peut pas venir. Résultat des courses, elle ne va nulle part. Et le pasteur en question, il est jeune, mais il est marié. Donc déjà, qu'un homme marié puisse dire ça à quelqu'un, enfin, Quelle est la prétention derrière? Moi, ça ne m'arrivera jamais. Donc, je peux être impitoyable avec ceux à qui ça arrive. Sa femme va accoucher, d'ailleurs. Déjà, on va voir le tirage dans le grand couple. Hein. Enfin, ça, je ne le souhaite pas, mais à mon avis, ça va être déjà beaucoup moins drôle. Donc, par souci de vérité, ça, je voudrais quand même terminer en disant ça, nous devrons, par amour pour l'autre, dire la vérité à l'autre sur le chemin qu'il emprunte, si ce chemin l'éloigne de Dieu et de la vie que Dieu offre. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Parce que nous l'avons vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, le péché et la mort sont encore très attractifs, aux yeux de notre nature humaine, même quand nous sommes chrétiens. On peut donc prendre des chemins de traverse. Et si ça se passe, bien entendu qu'il faudra le dire, mais on n'impose pas la vie à qui que ce soit. Il faudra accepter que la personne ne suive pas ce chemin. Ce n'est pas le plus facile dans ce que je fais, mais c'est 99% du temps. On ne va pas par là, c'est une connerie, on y va quand même, c'est comme ça, voilà. Je ne suis pas très différent. Donc, si nous voulons grandir, parce que j'ai parlé de sainteté, de sainteté, ben c'est encore merci Paul, qui le dit en Romains 13. Parce que parfois on dit, oui, mais comment grandir, comment... Sainteté, ça me fait peur. Ben, on va résumer le truc, et ça va peut-être vous faire du bien. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi de Dieu, des commandements. Vous voulez être certain d'être, de devenir de plus en plus saint, grandissez dans votre amour pour les autres et pour Dieu, voilà. Quand vous aimez de l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour fadasse qui laisse tout faire. Quand vous aimez avec implication de l'amour de Dieu, vous êtes sûr d'être dans le bon. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ici-bas, je ne peux me sanctifier, me purifier que par la vérité de Dieu, sa parole et l'acte d'aimer. Alors pour conclure, j'aimerais résumer tout ce que nous avons vu ensemble durant ces dernières semaines en les ramenant à Jésus. Et je termine vraiment. Car les 3 grandes acclamations concernant le Christ résument notre position de chrétien contemporain. Ce que nous devons vivre dans nos vies chrétiennes, ben c'est un peu résumé par ces 3 points concernant le Christ. Christ est mort, ça on savait. Christ est ressuscité. Christ reviendra. Sa mort et sa résurrection appartiennent au déjà du passé. C'est déjà fait ça, vous êtes d'accord. Il est mort, il est ressuscité. Son glorieux retour au pas encore du futur, c'est au futur qu'appartient ce retour. Son triomphe final n'en est pas moins certain. En fait, comme l'écrit le professeur Oscar Cullman, et je le cite, on peut mettre sa tête, mais je le cite, oui, c'est un gros plan. Heureusement qu'il a pas trop de boutons noirs. L'espoir de la victoire finale est d'autant plus ferme que la conviction que la bataille décidant de la victoire a déjà eu lieu est inébranlable. Elle a eu lieu où, cette victoire finale? C'est fait. C'est à la croix. C'est déjà fait. On va perdre des batailles dans cette tension. Il y a des moments où on ne sera pas gentil. Des moments où on va désobéir. Des moments où on ne fût qu'en pensée. Des moments où on sera en dessous de tout. On sera lamentable parfois. Si, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Et que ça arrivera. Mais nous ne perdrons pas la guerre, parce que la guerre, elle a été remportée à la croix. Et c'est de ça que nous allons nous souvenir maintenant, que nous sommes déjà vainqueurs. Amen.